Les matins de France Culture.
Place à la revue de presse internationale. Bonjour Adrien Taufollet.
Bonjour Florian.
Et ce matin, en lisant les journaux, on a l'impression que la tradition du poisson d'avril se perpétue fin décembre.
Oui, les actualités, leur traitement par la presse n'est pas sans humour, sans un fort sens de l'absurde. Peut-être faut-il mettre cela sur le compte d'une année 2017 bien trop chargée en émotions ou bien sur des repas de fête de fin d'année un peu trop arrosés. À commencer par cette information relatée par El País et Le Temps, la petite province de Tabarnia en Catalogne vient de décider de faire sécession. Les citoyens de Tabarnia réclament leur indépendance car depuis trop longtemps, explique-t-il, ils souffrent de la corruption des leaders politiques catalans qui les laissent dans la misère. Ainsi, ces citoyens ont lancé une pétition sur Internet qui recueille déjà plusieurs dizaines de milliers de signatures, mais heureusement, ceci n'est pas un nouvel épisode d'un profond déchirement régionaliste de l'Espagne. Tabarnia, contraction de Tarragone et Barcelone, est une province fictive. L'initiative se veut sarcastique. Derrière se cachent des anti-sécessions de la Catalogne. Il s'agissait pour eux, nous dit El País, de moquer les arguments historiques du camp indépendantiste, d'utiliser leur discours pour les placer devant un miroir au reflet extrêmement inconfortable. L'effet n'est pas garanti, mais il aura au moins fait rire la toile en Espagne toute la journée d'hier. Il est un sujet, en revanche, qui ne fait pas rire une partie des habitants du Liberia. Le site de la RTBF nous raconte le second tour de la présidentielle. Hier, les électeurs ont voté pour départager l'ex-star du football, George Weah, au vice-président Joseph Bocay. Journée de vote dont le bon déroulement général a été salué par les observateurs. Le dépouillement est en cours, les résultats seront connus dans les prochains jours. Le temps pour la population de se demander où va vivre le président fraîchement élu. Car voyez-vous, comme précisé par le New York Times, le palais présidentiel est hanté. Et là, il ne s'agit pas d'un canular. Le journal raconte le destin tragique des chefs d'État qui ont vécu dans le manoir, comme on l'appelle là-bas. William Tubman, William Tolbert, Samuel Doe. Pour beaucoup de Libériens, ce lieu est maudit. William Tolbert y a par exemple été assassiné un matin alors qu'il était encore au lit. On peut, paraît-il, encore aujourd'hui sentir des fantômes préparer son petit déjeuner. Là-bas, on y croit dur comme fer. Mais alors pourquoi l'actuelle présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, est-elle encore en vie ? Parce que le palais, explique le quotidien, est en travaux depuis son arrivée. Elle a toujours vécu chez elle, comme par hasard.
Et heureusement, il n'y a pas que des superstitions et de l'absurde dans la presse. Il y a aussi de l'inattendu.
Oui, ces derniers jours, on a beaucoup parlé de la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Décision largement analysée, commentée, souvent perçue comme une folie qui met en péril le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Seulement, ce processus de paix et ses négociations sont toujours d'actualité, nous dit le Jérusalem Post. Mais ni l'Europe et encore moins les États-Unis sont à l'œuvre. La Chine et le Japon sont-ils les nouveaux médiateurs du processus de paix, s'interroge en titre le journal. Aux yeux de l'autorité palestinienne, Donald Trump ne peut plus être médiateur depuis sa dernière décision. La Chine et le Japon tentent donc discrètement de faire continuer les discussions diplomatiques entre les deux parties à petits pas pour une solution à deux États. Le Japon tente par exemple d'organiser un sommet à Tokyo pour relancer les négociations. Et la semaine dernière, apprend-on, en pleine crise de la reconnaissance de Jérusalem, des délégations israéliennes et palestiniennes se rencontraient, non pas en terrain neutre à Genève, mais au contraire chez une superpuissance, à Beijing, pour évoquer l'avenir du processus de paix. Dans la ville, il y a les pyromanes et les pompiers, ces derniers ne sont pas toujours ceux qu'on attendait.
Et restons justement un instant sur le cas de pyromane politique, Donald Trump.
Donald Trump qui se repose en Floride après une année bien chargée, mais savez-vous seulement quel était son dernier combat avant de partir en vacances? Eh bien, la réponse nous est donnée par le quotidien Haaretz. Il s'agit de la guerre de Noël. C'est épuisant rien que de l'imaginer. Je vous laisse soupirer un instant. La guerre de Noël, donc, guerre qu'il est persuadé d'avoir gagnée aujourd'hui aux États-Unis. Grâce à Donald Trump, on aurait à nouveau le droit de souhaiter joyeux Noël, référence au refrain éculé par le camp conservateur depuis une dizaine d'années. Théorie complotiste qui laisserait entendre que les progressistes empêcheraient, avec leur politiquement correct et leur approche inclusive, de se souhaiter joyeux Noël pour ne pas heurter les sensibilités différentes. Alors, à grands coups de messages tweetés en majuscules et de clips télévisés, Le président américain n'a pas arrêté ces derniers jours d'expliquer que dans son Amérique à lui, contrairement à celle d'Obama, on est libre et on dit « Merry Christmas ». Mais selon les différentes enquêtes d'opinion, précise Arrête, la majorité des Américains, heureusement, se manque complètement du fait qu'on dise « Joyeux Noël » ou « Bonne fête de fin d'année » et pense qu'il s'agit en fait d'un délire monomaniaque d'une partie de l'électorat extrémiste de Donald Trump. Et le journal, de sortir de sa hotte maléfique de passeur de fake news, comme dit Donald, se tweet d'Ivanka Trump en photo posant devant un sapin avec simplement indiqué « Happy Holidays ».
Merci beaucoup Adrien Taufollet. Votre revue de presse internationale à retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans une dizaine de minutes maintenant, nous recevrons Paul Jorion. L'intelligence artificielle sera-t-elle à l'origine de la prochaine crise économique? Voilà la question que nous poserons à Paul Jorion. Pour l'heure, il est 7h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent.